Toutefois, plus de 30 morts à Kinshasa, c'est le bilan provisoire de la pluie qui s'est abattue cette nuit sur la ville. Le bourgmestre de Mongafula parle des 17 morts dans son entité, celui de Lemba signale 15 morts dans sa commune et celui de Makala parle des 2 morts. À la base de ce drame, il y a notamment des écroulements des murs et inondations dans plusieurs quartiers de la capitale. Plusieurs dégâts matériels sont également enregistrés. Comment analyser cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mardi 26 novembre 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Eliezer Tamboué. Il est député national élu de la Lukunga, ville de Kinshasa. Monsieur Eliezer Tamboué, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Apollinaire Salumou, il est architecte. Apollinaire Salumou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Tengelito, ministre provincial en charge de l'environnement de la ville, province de Kinshasa. Monsieur Tengelito, bonsoir. On me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Avo Odama depuis Arou, dans la province de l'Ituri. C'est l'insalubrité, le manque des décharges publiques et les constructions anarchiques, plus les sites érosifs qui sont à la base de toutes ces catastrophes, ces inondations, ces éboulements et écroulements des murs qui occasionnent des pertes en vie humaine. On doit interdire de nouvelles constructions et que l'administration publique puisse revoir le plan d'urbanisation de la ville en tenant compte de son sol. Merci de nous suivre à Mongafula sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit, plus de 30 personnes sont mortes suite à la pluie diluvienne abattue ce mardi depuis 1h du matin sur Kinshasa. Des dégâts matériels graves sont enregistrés dans les écroulements des maisons et des routes coupées. Sachez aussi que l'avenue Université menant vers l'Unikine s'est coupée en deux, perturbant totalement la circulation. Reportage Michel Kifinda.
C'est un déluge aux conséquences incalculables qui s'est abattu de 1h à 9h du matin sur Kinshasa. Outre l'avenue Kianza, la route de l'université s'est aussi coupée en deux, créant un ravin de plus de 20 mètres de profondeur. Témoignage.
Ça, c'est un chemin principal qui nous amène au centre-ville et partout. Il y a des maisons qui sont écoulées. Donc, si on traînaille encore, vous voyez, même l'école sera endommagée.
Ici, si toute la tuyauterie de la régie des eaux complètement dénudée s'est coupée en deux, tout le campus et les quartiers environnants serait privé d'eau.
Il y a même les tuyaux de la régie des eaux qui sont ici, soit en mauvais état pour alimenter la grande partie du campus et de l'autre côté. Donc la population sera en pénurie d'eau.
Pire, des cas de décès sont signalés dans plusieurs communes de la capitale.
C'est vraiment grave, la situation est vraiment dégradante. Nous demandons au président de la République, au travers du gouvernement justement, de pouvoir s'impliquer vers Manzalemba. Il y a environ 2 morts déjà enregistrés. La pluie a vraiment causé d'énormes dégâts.
Le bilan provisoire fait état de plus de 30 personnes mortes, dont 17 à Mongafula, renseignent les sources communales.
Les pertes en vies humaines et les dégâts enregistrés à l'issue de la pluie qui s'est abattue cette nuit sont énormes et la ville n'est pas encore épargnée du danger. C'est ce qu'a affirmé le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa qui faisait la ronde de la capitale avec le commissaire provincial de la police après cette pluie diluvienne. Pour Nerombungu, des décès sont enregistrés un peu partout. Le bilan est lourd. Il ajoute que d'autres cadavres sont toujours recherchés. Recherchés, je voulais dire. Néron Bungu est au micro de Michel Kifinda.
À Moamba, dans la commune de Kisenso, il y a eu écoulement d'une maison. Là, il y a 2 victimes. Nous déplorons 2 cas de décès. Et puis au quartier Kumbu également, nous déplorons 2 cas de décès. À Lemba maintenant, n'en parlons même pas. Vers Salongo, Livoulou, les cas, les victimes que nous avions vues nous-mêmes, c'est plus de 10 corps. Là, on est encore à la recherche des autres corps. Directement, la ville a pris en charge. Nous avions débloqué quelque chose pour d'abord on puisse évacuer tous ces corps-là à la morgue. Et puis pour les gens, les victimes qui sont dans les hôpitaux ou quoi là, nous allons débloquer quelque chose que nous allons donner au bourgmestre. À Limété, il y a électrocution sur 4 mairies industrielles d'un enfant de 12 ans. Et maintenant à Lukunga, à Mongafula, il y a plusieurs sortes érosives que nous avions constatées. La route s'est coupée en deux vers Envrac. et à Ngaliema vers Ozone. Nous déplorons aussi un cas de décès, il y a écoulement.
C'était la Néron Bungu, vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Eliezer Tambwe, vous êtes député national élu de la Lukunga, ville de Kinshasa. Comment vous analysez cette situation? Plus de 30 morts à Kinshasa. C'est le bilan provisoire. Il faut signaler de la pluie qui s'est abattue cette nuit sur la ville. Comment vous analysez cette situation? Une situation qui aurait pu être évitée?
Merci beaucoup, madame. Je disais d'abord là que nous sommes les plus éprouvés de la capitale. En tant qu'élu de Kinshasa d'abord, et ensuite en tant que Congolais, parce que ce sont nos frères, nos sœurs qui sont décédés, et nous le regrettons. Vous l'avez dit, madame, si vous aviez suivi lors de mon intervention dans l'hémicycle, lors du débat sur le budget, c'est ce que j'avais déploré. Dieu aime le Congo, Dieu nous aime, dans la mesure où il n'y a aucun malheur qui s'abat sur nous sans que nous soyons prévenus. Que ce soit pour l'aspect sécuritaire, vous allez entendre à l'est là qu'on vous prévient, qu'on annonce qu'il y a des menaces. On reste, on tourne le pouce. On n'agit pas, on attend qu'il y ait mort d'homme pour que nous puissions observer une minute de silence ou que nous puissions regretter. Ce qui n'est pas bon. Lors de mon intervention dans l'hémicycle, madame, j'ai dit au Premier ministre que tout ce que nous faisons, je ne sais pas si c'est la politique ou c'est le contraire de la politique, parce que gouverneur, c'est prévenir. Ici à Kinshasa, nous avons des têtes des érosions partout. Et la plupart des têtes des érosions, les autorités qui sont censées répondre aux besoins l'ont déjà visité. Mais ils attendent. Quand ça devient plus grave, surtout quand il y a mort d'homme, maintenant on s'élève, on compte le nombre de morts. Ça s'appelle la sorcellerie. Parce que il fallait anticiper les événements. Il fallait voir pourquoi on ne peut pas, nous avons l'OVD ici. Pourquoi ne fût-ce que scinder l'OVD dans des brigades de contrôle et de surveillance? Chaque fois qu'il y a des nuits de poule, on cherche à colmater, à remblayer avant que ce ne soit tard. Vous pouvez descendre chez Victoire, madame. Est-ce qu'on peut encore y passer? Ces gens qui se promènent avec des cortèges, je ne sais pas comment ils ne sentent pas les trous, comment ils ne sentent pas les nids de poule. Et tout ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé aujourd'hui, Dieu nous a prévenus. On savait que ça pouvait nous arriver. Mais on fait semblant, on attend l'endroit où on pouvait dépenser moins de 1000 dollars, on attend pour débourser 100 000 dollars. C'est ça la politique que nous sommes la politique en RDC, ce qui est bizarre. Parce que la politique, ce n'est pas ce que les gens comprennent. La politique, c'est l'art d'organiser la société. Alors que c'est l'État qui organise la société, pas le contraire. Si l'État qui est censé organiser la société ne fait rien, on attend le pire pour déplorer plus tard. En tout cas, je pense que c'est de la sorcellerie. Tout ce qui nous arrive, à tous les plans de la vie, que ce soit l'aspect sécuritaire.
Donc, on aurait pu éviter ça?
Bien sûr que oui, madame. Bien
sûr que
oui.
Vous incombez la faute aux autorités du pays, au gouvernement.
Au gouvernement, bien sûr, parce que pas plus tard que lundi de la semaine passée, aujourd'hui nous sommes mardi, c'est le jour qu'on débattait le budget de l'État. Et j'ai soulevé cette question d'anticipation. Nous avons le problème aujourd'hui que les gens déplorent, les phénomènes, tout ce que vous voulez. Mais attendez, il fallait anticiper quand les phénomènes arrivent. Il fallait savoir encadrer les gens avant qu'on en arrive là. Mais on ne le fait pas. On attend que le pire arrive. Comme ça, on va débourser beaucoup d'argent pendant qu'on se bat pour ne fût-ce qu'avoir un budget consistant. C'est ce qui est bien dommage, madame.
Alors, certaines personnes parlent aussi des constructions anarchiques qui seraient à la base de ce que nous déplorons aujourd'hui.
Madame, allez là où on parle des constructions anarchiques et vous trouverez toutes ces personnes sont en possession des titres de propriété, obtenus auprès de qui? Auprès de l'État. Je venais de dire tantôt là que c'est l'État qui organise la société. Tous ces gens-là ont des certificats d'enregistrement, tous ces gens-là ont des documents octroyés par l'État. Si il y a eu des constructions anarchiques, c'est parce qu'il y a des désordres dans les fiefs des décideurs, dans les fiefs de l'État. Parce que nous sommes là, allés partout, on lotit partout, tous ces gens qui sont dans le gouvernement, pour la plupart, ils viennent de l'Europe, ils habitent là, ils voient comment on construit, on laisse des espaces là où l'eau peut entrer, on laisse les espaces ne fût-ce que pour le parc des enfants. Mais on ne le fait pas, on fait autre chose, madame, que ça. Et parler de qui s'excuse, s'accuse. Parler aujourd'hui de construction anarchique. Qui a permis à ces gens-là de construire anarchiquement? La loi propose même la façon dont on doit construire. Si vous avez une parcelle de 40 sur 30, par exemple, vous n'allez pas construire une maison qui prend 40 sur 30 non plus.
Mais, cette population qui va construire, est-ce qu'elle ne fait pas, elle ne constate pas que c'est un endroit où on ne peut pas construire, même si les documents leur sont délivrés par les autorités? De soi-même, on ne peut pas se dire que je ne peux pas construire à cet endroit.
Je répète encore, madame, pour vous dire que c'est l'État qui organise la société. Je vais vous donner un exemple. Ici, dans la ville de Kinshasa, il y a eu d'abord une première démarche qu'on puisse peindre en couleur du drapeau, de notre drapeau, tous les véhicules de transport en commun. On a changé pour peut-être des accointances politiques. On a dit non, ça devient la couleur jaune. Tout le monde s'est exécuté. Aujourd'hui, on parle de contrôle technique, madame. Allez-y, vous avez une voiture certainement. Vous allez voir qu'on ne vous envoie pas pour qu'on fasse les contrôles techniques, pour qu'on répare, mais on vend les papiers. C'est ça l'État. Et aujourd'hui, quand quelqu'un commence, vous voyez partout, on écrit autorisation de bâtir. C'est ça les services de l'État. C'est l'État qui est censé veiller, contrôler et mettre de l'ordre. Où est-ce que, dans quel quartier vous avez vu l'État mettre de l'ordre? Si vous trouvez le militaire et le policier, quelque part, c'est-à-dire les autorités veulent eux-mêmes construire. Tout simplement ça. On lotit partout, on construit partout. Allez-y, il y a le bassin qui est là, comment on appelle, le Wenze qu'on appelle Kindibula, le triangle de l'Unikine. Là-bas, on a laissé là ne fût-ce que pour les maraîchères. Mais allez-y maintenant, vous allez trouver, tiens, pas seulement des policiers, mais il y a les militaires qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Et plus tard, vous allez voir que ce sont les autorités là qui ont construit là-bas.
Alors, vous avez tiré la sonnette d'alarme, Eliezer Tsamboué. Vous n'avez pas été entendu par le gouvernement. Est-ce que vous allez vous taire ou vous allez continuer?
Je ne vais pas me taire, madame. Je vais utiliser les moyens qui sont à ma disposition. Je suis député national. Nous allons interpeller le ministre parce que j'ai prévenu ces gens-là. Je leur ai dit, c'était d'ailleurs en direct, tout le monde suivait quand on débattait sur le budget. J'insistais sur la prévention. On ne fait rien, on ne prévoit rien, on improvise tout. Il ne faut pas que les guerres politiques et les positionnements par rapport aux échéances de 2023 puissent mettre les Congolais en difficulté jusqu'à ce point-là.
Merci Eliezer Tsamboué. Apollinaire Salumou, vous êtes architecte. Cette situation remet-elle sur la table la question de l'urbanisation et des constructions anarchiques en RDC?
Merci beaucoup, madame. Avant d'intervenir, je voudrais d'abord avoir une pensée à toutes les victimes de la ville, et ma pensée va directement à ceux-là qui ont manqué pratiquement aujourd'hui où mettre leur tête. Madame, cette situation n'a que son origine il y a longtemps. Je voudrais peut-être paraphraser mon co-débatteur ici, même si je ne dirais pas dans les langages d'un politicien, que le mal est profond et n'a pas commencé aujourd'hui. Là où je pourrais quand même avoir une même pensée avec lui, c'est la démission de l'État. L'État est démissionnaire depuis longtemps, et pas seulement aujourd'hui. Je crois que ceux qui gèrent la cité aujourd'hui sont aussi responsables. Dans quel sens? Pour dire que mieux vaut prévenir que guérir. On prévient toujours. Mais là où on pourra aussi dire, c'est un problème d'urbanisation. La ville n'a pas un plan directeur d'urbanisation, et la ville s'est abandonnée à elle-même. Je crois qu'il y a longtemps, il y a un service BAU qui était financé par la France, la coopération française, qu'on appelait Bureau d'études d'aménagement urbain, qui a une cartographie assez bien outillée pour donner le planning ou bien le schéma directeur de la ville de Kinshasa. Il y a aussi d'autres études qui ont été faites par le bureau des Nations Unies Habitat, ici, avec le professeur Kanene et d'autres personnalités. Ils ont parlé sur le problème de la ville. Il y a aussi M. Fumuzanza, qui est aussi un homme qui est outillé à la matière, qui a fait aussi beaucoup d'études sur ce sujet. Et la ville aujourd'hui, qui est abandonnée à elle-même, ne ressemble même plus à une ville, mais à une agglomération qui n'a pas de nom. Dans le sens que vous n'avez pas une urbanisation, vous n'avez pas les évacuations bien respectées, et sans tenir compte qu'il y a une démographie aussi galopante. Kinshasa devient comme ce qu'on appelle des mégalopoles non gérées et non attractives. Parce que même les autorités elles-mêmes sont à la base de cette situation que nous vivons. Je crois que mon co-débatteur a parlé aussi de l'abandon de cette population. Pourquoi? Parce que là où on construit, il doit nécessairement avoir un plan de construction. Il faut voir aussi le voisinage immédiat qui a été construit là au départ et qu'est-ce qui a été destiné à ces quartiers-là. Vous êtes censé comprendre qu'à Kinshasa, il y avait des quartiers qui étaient non autorisables pour construire, non édifiants, dit dans les termes techniques. Il y a aussi des quartiers qui étaient destinés à la zone industrielle et à la zone d'habitation. Mais cela est déjà confondu dans les méli-mélo qu'on ne peut pas comprendre. Et voilà, ce manque d'un plan directeur, ce manque d'urbanisation suivi par rapport à la démographie et aussi à la base de ça. Il y a aussi la population elle-même. C'est sûr, quand la population est abandonnée, un bien sans maître, on dit aussi que la nature a horreur du vide. Et quand il y a un petit espace, la population qui ne connaît pas la loi, elle trouve que c'est un endroit pour construire. Bien sûr, elle se met, c'est en aval qu'elle va demander les documents y afférents pour l'autorisation de bâtir. Mais ce qui est déplorable, madame, les agents de l'État qui sont censés faire les contrôles, aller faire un constat sur les lieux avant d'autoriser, de donner une autorisation de bâtir, des fois, ils ne descendent même pas sur les lieux. Il y a aussi un problème qu'il faut dire, madame, c'est les affaires foncières, qui est un organisme de l'État qui est censé faire, par les lotissements, c'est la répartition à l'eau, mais il y a aussi un déficit criant dans ce ministère de ceux-là qui sont censés connaître l'urbanisme, faire un plan urbanistique. On confond parfois les choses en disant que c'est le géomètre topographe qui fait la ville. C'est sûr, le géomètre topographe fait les tracés. Et l'urbaniste vient composer la ville. Et l'architecte compose les édifices qui vont accueillir la ville. C'est un peu ça. Et tout ça, c'est pratiquement oublié, ignoré, par ceux-là même qui sont censés respecter la loi.
Il faut peut-être sensibiliser la population aussi sur cette question.
La sensibilisation ne suffit pas, madame. Il faudrait aussi la coercition sur la loi. Il faut qu'il y ait des lois coercitives pour que quand on voit quelqu'un vient construire à un endroit non édificandi, il est puni par la loi. Mais je vais vous faire rire, madame. Vous savez, dans un quartier que j'ai visité, les gens ont construit les longs d'un collecteur. Ils ont construit même au-dessus, ils ont dallé, ils ont construit même demi de clôture. Mais une fois, le voisinage immédiat a réagi pour dire que vous n'allez pas faire ça parce que ça rétrécit un peu la canalisation. Mais c'est un député, un élu, qui est venu défendre ces gens en disant que ce sont mes électeurs. Vous voyez, à la hauteur d'un député, pratiquement qui ne connaît même pas la loi, qui ne connaît pas aussi l'urbanisation, comment ça s'est fait. Lui, il trouve que c'est un terrain où on peut ériger n'importe quoi que ce soit. Maintenant, les rétrécissements de ces caniveaux renvoient les eaux dans le quartier et ils sont inondés tous les jours. Il y a aussi un problème. Vous voyez les corridors qui donnent dans l'enceinte de l'Onatra. C'est un exemple que je vais donner. On appelle quartier Pakajuma, qui s'étend, qui a commencé au niveau de Baramoto, qui s'étend jusqu'aujourd'hui maintenant vers la 12e rue, pratiquement à l'ISAM. Les autorités passent par là, comme a dit mon frère, avec des 4x4, avec des cortèges. Mais je ne crois pas que leur regard n'est pas arrivé vers ces gens qui habitent. On attend que ces gens meurent un jour pour qu'on dise qu'il y a une catastrophe. Les érosions qu'on en a, c'est pratique. Vous savez, pratiquement, les érosions, c'est partout à Kinshasa. Mais si on ne prévoit pas, on va continuer à pleurer les morts. Il sera peut-être, dans l'immédiat, se fait une équipe d'urgence pour recenser, comme a dit le gouverneur, probablement, voir ces gens qui ont construit sur les talus, sur les caniveaux, sur les essais.
Alors, peut-être vous avez parlé de manque de plan d'urbanisation. Vous pensez que c'est fait sciemment de ne pas avoir ce plan d'urbanisation ou c'est juste par négligence?
C'est fait sciemment et la négligence aussi. Et ne pas connaître. Vous savez, madame, un médecin ou bien une aide accoucheuse a besoin de sa table d'accouchement. Le reste, l'électricité ou le plafond, des fois, il ne connaît pas. Il faut qu'il y ait les personnes qui sont censées lui dire, voilà votre cadre où vous allez travailler, voilà comment il se présente. Même vous, les journalistes, madame, si vous n'avez pas votre casque, vous n'avez pas votre micro, vous entrez dans une cuisine où on est en train de préparer les... Vous n'allez pas travailler dans la fumée ou quoi que ce soit. C'est manque de connaissance de cet outil. Qui peut nous aider, l'urbanisation, mais manque aussi de la bonne volonté, la bonne foi de gérer la cité. Parce que quand on gère bien la cité, il y a aussi certains paramètres qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que vous êtes un député, vous êtes un avocat, vous avez le droit de marcher sur toutes les plates-bandes. Voilà.
Merci Apollinaire Salomon. Nous devrions avoir Monsieur Tengelito, ministre provincial en charge de l'environnement de la ville-province de Kinshasa dans cette émission. Malheureusement, il ne répond plus au téléphone. Monsieur Tengelito, si vous nous suivez, nous vous attendons pour participer à notre débat de ce soir. Comme vous l'avez promis, Eliezer Tambué, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient du Kasaï oriental.
Joseph Thioui. Je suis dans la province de Kasaï oriental. C'est une interpellation pour nous. Le développement est aussi notre apanage. Nous devons revoir notre manière de voir et de faire, c'est-à-dire construire avec rationalité. Cela pourra nous pallier de telles situations. Donc, n'attendons pas tout du gouvernement. C'est-à-dire quoi? Un appel juste à la responsabilité et à une autoprise en charge de la population. Puisque vous voyez les inondations, d'une part, le gouvernement qui doit intervenir pour la canalisation. Mais nous devons aussi construire de telle sorte que l'eau ne puisse pas inonder et qu'elle ne puisse pas détruire nos maisons.
Eliezer Tamboué.
Bon, l'auditeur a dit qu'on ne doit pas construire, nous devons construire avec rationalité, on ne doit pas tout attendre de l'État. Mais je ne sais pas s'il comprend exactement de quoi nous parlons ici. Pour que quelqu'un construise, d'abord il y a la loi Bakajika, qui vous dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. C'est l'État qui est propriétaire de la terre, qui l'organise de la manière dont il veut. Pour que quelqu'un construise, il ne va pas commencer à construire comme ça en désordre sans avoir obtenu de l'État l'autorisation. Et c'est l'État qui connaît la terre parce que la terre lui appartient. Il connaît quel endroit où quelqu'un peut s'installer, quel endroit où on peut cultiver, quel endroit où on peut lever élever les animaux, tout ce que vous voulez. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, pourquoi l'État existe? Parce que l'État, c'est une organisation qui a son histoire. L'État, c'est l'émanation de l'organisation d'un peuple. Et quand le peuple s'est regroupé, qu'on a créé ce qu'on appelle l'État. Et pourquoi on paye les impôts et les taxes? Parce que ces gens-là ne sont pas censés de faire autre travail que le travail de veiller sur le peuple. Maintenant que les gens ne veillent pas sur le peuple, on néglige tout, madame. Vous allez constater, le ministre de l'urbanisme et habitat, pour la plupart, et le ministre des affaires foncières, pour la plupart, ce sont les grands spoliateurs. Il y a des preuves que vous pouvez voir. Nous avions fait autant des émissions l'autre fois. Vous voyez sur le rail, dans cette ville même, on a cassé le marché, si vous voyez au niveau de l'avenue 24, quelque part là, il y a le rail. On a cassé le marché qui existait là-bas, on a dit qu'on pouvait laisser libre le passage parce qu'il y a les trains qui devraient commencer à circuler. Après, on a ramblayé. Rien qui est fait. Vous allez vers Kingaboa, là où mon co-débatteur venait de dire. Nous avons vu un ministre en complicité avec son collègue, autre ministre, signer les arrêtés les mêmes jours à la différence d'une heure parce qu'il voulait spolier les terrains, la concession de l'ONATRA. Voilà où nous allons. Au moment où je vous parle, nous faisons cette émission, madame. Le même ministre ont vendu, vous voyez, les maisons de l'État qui sont à l'entrée des camps de la cité de Loya, comme si vous êtes sur des écuries, vous montez. Il y a les maisons là-bas. Tout a été spolié. On menace de déguerpir ces gens qui sont là sous prétexte qu'on a vendu. Finalement, l'État va posséder quoi? On doit déposséder l'État au profit des individus. Et ces individus-là sont quels individus? Ce sont les individus auprès de qui on a donné le droit, le pouvoir. Madame, il y a une chose, parce que quand on parle de la corruption, moi j'ai fait les sciences politiques. Comment définir la corruption? La corruption, c'est faire la promotion d'autres intérêts que celui dont on vous a assigné pour accomplir la tâche. Non, mais les gens font n'importe quoi. Ils font la promotion, nous les regardons et nous les appelons les grands prêtres, les mopao. Ils sont en train d'espolier l'État. Vous n'avez qu'à voir la façon dont on est en train de lotir, de morceler les parcelles. Une parcelle de 25 mètres, par exemple, vous trouverez, parce que c'est le propriétaire de la parcelle, il va morceler une parcelle de 25 mètres en 5 parcelles.
L'État a failli à sa mission, donc, pour
l'État,
voir...
L'État, pas seulement que l'État faillit, mais l'État n'existe presque pas. Nous vivons dans un pays de non-État.
Chacun fait ce qu'il veut.
Et voilà. Et aussi en suivant les autorités, parce que ce sont ceux qui sont censés prêcher par l'exemple, qui donnent le temps aux autres. Et cette loi ici...
Et donc la population emboîte le
oui,
pas.
Et cette loi ici qui dédouane les conservateurs, qui vous dit que, écoutez, quand les conservateurs commettent l'action, ce n'est pas de sa responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Alors que l'État n'est qu'une personne morale. C'est ce qui donne le droit aux gens de faire n'importe quoi. C'est là que je dis, madame,
tout ce que nous constatons aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me citer un seul endroit où il y a eu boulement, où les gens n'ont pas crié, n'ont pas appelé l'État à venir intervenir parce qu'il y a une tête d'érosion? Il n'y a aucun endroit où c'est arrivé comme ça. On était prévenus, mais on n'a pas voulu anticiper. Maintenant, alors, je le vois en train de compter les morts. Nous avons entendu le gouverneur ici.
Alors, on parle d'un bilan provisoire de plus de 30 morts. Est-ce que vous, en tant qu'élu de Kinshasa, vous avez les chiffres exacts ou ce soir, combien de
je
morts
il y a eu? Je n'ai pas
les
chiffres exacts, madame, mais selon ce que j'ai appris qu'il y a plus de 50 morts. Plus de 50 morts là, on est en train de compter. Vous avez même entendu le gouverneur qui fait l'intérim, le vice-gouverneur qui vous dit qu'il continue à compter les morts. Mais la ville, si nous pouvons parler de la ville, nous attendons le ministre provincial, nous allons entendre qu'est-ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce que la ville a fait pour anticiper tout ce qu'on fait? C'est du tralala. On a commencé ici avec pas de tapage, pas de tapage. Ça fait combien de temps? Et on est comme ça. On nous a dit ici, Tine Bopeto, depuis qu'on a lancé, qu'est-ce qui a suivi? C'est la même chose qui revient. Nous avons les animateurs de mauvaise foi parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas.
Merci, Eliezer Tamboué. Monsieur le ministre provincial Tengeli Tosi, vous nous suivez. Il y a beaucoup de questions pour vous de la part des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment. Donc, on a besoin de vous dans cette émission pour répondre à toutes ces préoccupations des auditeurs. Apollinaire Saloumou, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient du Maniema.
Depuis Kindu dans la province du Maniema. De tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances aux familles éprouvées par ce drame. À mon avis, on devrait s'attendre à ce genre de choses dans la capitale, vu que le plan d'urbanisation n'est pas respecté. Outre ce plan, les responsabilités sont aussi partagées du côté de la population et de l'État. La population est trop négligente quant à la gestion des ordures jusqu'à les laisser dans les caniveaux et ravins oubliés qu'elle se met dans un risque permanent. L'État, de son côté, est pointé par la non-mise en application des normes urbanistiques, l'absence de poubelles publiques et l'insuffisance de séances de contrôle de salubrité. Il est donc question que chaque couche prenne conscience sur ses devoirs dans la gestion des déchets en vue de prévenir dans l'avenir ce genre de dégâts.
Apollinaire Saloumou.
Oui, madame, je crois que mon concitoyen n'a fait que continuer dans la même pensée que moi. Quand j'avais dit que la responsabilité elle est partagée, il y a l'État et la population. L'État devait être en amont et la population en aval pour suivre ce que l'État est en train de donner comme responsabilité. Je crois qu'il y a la part de l'État, c'est quoi? C'est la démission. L'État a totalement démissionné à ses prérogatives. Ce n'est pas, quand je parle de l'État, ce n'est pas ceux qui gouvernent aujourd'hui. Ça commence depuis longtemps. Et ceux qui sont venus aujourd'hui, je crois qu'ils assument les passifs de ceux qui ont gouverné avant. La population également a sa responsabilité. Vous voyez par exemple cette érosion de la route de l'université, madame. Cette érosion, il y a je crois 25 ou 26 ans, il y avait aussi ce même problème. Et ça avait emporté. Et quand on a refait cette route, les gens ont encore occupé les berges et les talus de ces coins-là. Et je crois qu'on a déploré aussi les morts. Vous rappellerez aussi à Badiadingi. Il y avait aussi une érosion qui avait coupé la route en deux. Et c'est, le génie militaire qui a travaillé à ce niveau-là. Mais quand on a arrêté cette érosion, la population a encore envahi les espaces qui ont été... On a fait les remblais. Voilà, c'est là où il y a la part de l'État. Là où je ne suis pas de l'avis avec l'honorable, c'est de jeter tout à l'État. J'ai bien dit ceci. La nature a horreur du vide. Quand l'État ne prend pas ses responsabilités, cette population qui n'est pas éduquée, qui ne connaît rien du tout, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient, elle occupe l'espace. Et cette population va chez l'État pour demander les titres. C'est en aval qu'elles obtiennent, cette population arrive à avoir des titres nécessaires pour la construction. Ça dit, c'est l'ignorance de cette population, elle-même aussi. Quand vous êtes à un endroit très dangereux, vous devez protéger la vie de la famille. Mais l'État est censé aussi prendre les responsabilités. Madame, sous d'autres cieux, quand vous entendez parler qu'on construit des maisons sociaux, ce n'est pas seulement l'État qui les construit, ce sont des particuliers. Des promoteurs immobiliers, mais on donne à cette population la possibilité d'accéder et d'occuper ces résidences avec un bon salaire, avec un bon traitement, et là, quelqu'un est capable. Madame, vous pouvez prendre même un agent, un directeur qui est dans une société de l'État, ne peut pas payer une maison qui vous coûte 1000 euros, à moins qu'il vole dans la caisse de l'État, par son salaire, impossible. Mais vous trouvez quelqu'un qui a peu de moyens, il ne peut pas être capable de se construire une maison, il fait ce qu'il veut, il occupe les endroits difficiles. Je vous donne un exemple aussi. Vous voyez les quartiers GB. Vous ne direz pas c'est quelqu'un qui vient d'Impasse qui a occupé cette partie. Ce sont les gens qui sont fortunés. Mais comment est-ce qu'on a urbanisé ces quartiers? Aujourd'hui, même ceux qui y habitent ont de sérieux problèmes. Pourquoi? Mais l'État a vu, et c'est l'État qui a donné l'autorisation de morceler ces terrains et de donner des autorisations de bâtir. Donc, il y a une responsabilité de l'État qui est énorme sans pour autant se dissimuler là-dessus. Et il y a aussi la population elle-même qu'il faut aussi tout le temps informer. Mais vous savez, les politiciens, les hommes qui travaillent, parfois, leurs préoccupations sont ailleurs. Ce n'est pas tellement la population. Parce que si leur préoccupation était de protéger cette population, ils devaient faire plus pour commencer à faire quelque chose. Ce n'est pas seulement Kinshasa. Vous allez dans toutes les provinces
dans
de la République.
Dans plusieurs provinces de la République.
Vous trouvez les mêmes cas.
On retrouve le même problème.
Le même problème, madame.
Alors, Eliezer Tamboya, cet étudiant Meskia Nixon, oui, qui nous écrit depuis Kinshasa, étudiant à l'université de Kinshasa, qui dit ceci, ce matin, quand il pleuvait, j'étais dans les transports et j'ai vécu toute la scène. Le problème, c'est que l'homme congolais est lui-même son ennemi. Il y a ceux-là qui jettent des ordures dans les caniveaux et quand il y a la pluie, comme ça déborde, et on commence à crier sur les autorités. Moi, je crois que la grande solution, c'est de changer la mentalité des Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire, Eliezer Tamboya, pour éviter ce genre de situation à la longue?
Bon, merci beaucoup, madame. Mon co-débatteur, comme l'intervenant de tout à l'heure, estime que c'est de la responsabilité aussi de la population. Moi, je persiste, je signe, je dis que c'est de la responsabilité de l'État.
Donc, pour vous, la population n'a rien à voir...
Je vais vous expliquer, madame.
Allez-y.
Le co-débatteur venait de parler du quartier GB. Qui ont construit là-bas? Il a dit que ce ne sont pas les hommes d'affaires. Vérifiez bien. Si les hommes d'affaires sont intervenus là-bas, c'est plus tard. Ce sont les politiciens, les détenteurs du pouvoir. Tel ministre, tel premier ministre, ainsi de suite, qui se sont partagés ces quartiers-là et qui ont loti. Là, vous allez dire quoi? C'est la population? On parle des ordures qu'on doit jeter par-ci, par-là. Où est-ce qu'on a placé les poubelles? Et où est-ce que nous avons vu à l'entrée de l'AFDEL? Moi, je vis à Lubumbashi, il y avait une brigade de surveillance qui cherchait à suivre les gens. Chaque fois que les gens mangeaient sur la route, on te dit, non, monsieur, il ne faut pas manger debout, comme ça, asseyez-vous. Après, vous prenez les ordures, vous jetez dans la poubelle. Et c'est l'État qui donne le temps. L'État est absent. C'est comme ça que vous constatez même dans la circulation. Ce n'est pas... Dans n'importe quel pays, vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez au Canada, vous allez trouver que, ne fût-ce que pour les infractions que les gens commettent, les infractions routières, vous allez trouver que l'État gagne autant d'argent. Et qu'est-ce que nous faisons? On néglige tout. C'est l'État qui est l'organisateur et non le contraire. C'est lui qui organise la société pour que les gens, les changements de mentalité dont il est question. On va ouvrir les têtes des gens et changer la mentalité. Joseph Kabila a dit que tout ce qu'il n'a pas pu faire, c'est de changer la mentalité des Congolais. Mais changer la mentalité des Congolais, on était dans ces pays même, dans cette ville ici. L'homme qui a terminé le 5-5 Naban dans le bis, c'était qui? C'était John Numbi quand on l'a nommé. C'est parce qu'il avait un pouvoir d'agir. Aujourd'hui, nous avons le bis peint en couleur, que je dis d'un parti politique, du pouvoir, parce que ce n'était pas la couleur qui était prévue, c'était l'emblème national qui était prévu. C'est quand l'État prend une décision. Et si on ne fait pas ça, il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de toilettes publiques, mais vous allez trouver quelque part là, on a écrit, non, Kosubawate. Tout ce qu'on a écrit là-bas, c'est parce qu'on trouve que c'est sale. Si c'était propre, quelqu'un ne pouvait pas confondre ça aux toilettes, à un endroit où il peut se soulager. C'est ça, madame. Moi, je pense que, je persiste et j'estime que c'est de la responsabilité de l'État, de gouvernants. Et moi, j'estime aussi que ce sont, pour ne pas être plus fort, j'ai dit que c'est de la sorcellerie, dans la mesure où tous ces gens, les détenteurs du pouvoir, voyagent, ils ont leur famille à l'extérieur du pays, ils voient qu'est-ce qui s'est fait à l'extérieur. Je vous ai donné l'exemple, madame. Presque tous les quartiers à problème ici. Je donne un autre quartier. Les quartiers là où on devrait construire l'IFASIC, derrière le palais du peuple, Beauvent, qui ont loti là-bas, les détenteurs du pouvoir, là où on avait donné les journalistes de la RTNC, les détenteurs du pouvoir. Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voulez me dire que non, c'est la population qui est responsable. Qu'est-ce qu'on a demandé à la population? Qu'est-ce qu'on a demandé à la population que la population n'a pas respecté? Tout ce qu'on fait, on fait comme ça du tralala, des récupérations politiques, on va prendre des photos à côté des morts et on commence à présenter des condoléances. Quelles condoléances? Vous êtes sorcier de votre propre population. La solution, c'est laquelle, madame? Ilunga Ilu Kamba a dit qu'il va sanctionner. Nous n'attendons pas seulement que ce soit un slogan. Il doit voir qu'est-ce qu'on a envoyé dans ce gouvernement-là. Parce que, en tant que politologue de formation, avant que quelqu'un puisse accéder à des fonctions de l'État, il doit passer par ce qu'on appelle l'enquête de loyauté. On doit savoir comment la personne se comporte, comment la personne agit, s'il est capable de gérer la chose publique. Chez nous, ce n'est pas le cas. Je vis en Suède, madame. Elle s'appelle Mona Salim. C'est une dame qui a démissionné par le fait qu'elle a acheté un chocolat de 12 euros avec la carte de l'État. Chez nous, mais pourquoi on se dispute pour aller là-bas? Ce n'est pas pour servir la nation.
Donc la solution c'est, pour vous, c'est la sanction. Il faut sanctionner toutes ces personnes.
Il faut commencer par sanctionner, arrêter tous ces gaillards ici qui sont dans le gouvernement. Si quelqu'un faillit à sa mission, le mettre d'abord en prison. Merci. Ou l'envoyer qu'il suivait.
Merci, Eliezer Tamboya. Apollinaire Salomon, qu'est-ce que vous proposez-vous comme piste de solution pour éviter à la longue ce genre de situation?
Bon, avant de reprendre, je voudrais quand même épingler, ajouter un mot à ce que l'honorable vient de dire.
Allez-y.
Je crois que l'honorable, ce plateau, c'est pas seulement de dire les hommes d'État, les politiciens, tout ceci. Vous connaissez, notre pays ne marche pas comme toutes les nations du monde. C'est un pays qui marche à contre-courant, avec ce qu'ils ont comme des cohabitations, des ceci, des cela, où les intérêts sont différents. Il est difficile d'avoir un État cohérent et fort qui suit les normes comme il faut dans d'autres pays quand il parle de la Suède ou de la Suisse.
Ce n'est pas encouragé en tout cas.
Ce n'est pas encouragé. Il faudrait que les gens viennent à eux-mêmes. Arrêter ceux qui sont en train de faire comme les tralala, comme il est dit, et prendre la responsabilité comment est-ce qu'on peut gérer l'État. Et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parmi les pistes de solution, madame, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faudra demander au gouvernement Ilunga Kamba de résoudre tout le problème. Mais il faut commencer quelque part. Quelque part, c'est ce que l'honorable a dit, quand on commence à sanctionner. Vous vous rappellerez, quand on a commencé avec Tebenatembe, l'État est venu à démolir. Là où il y a cinquantenaire, les gens ont occupé cet espace et on a démoli. C'est un peu ça que l'État devait faire. Par exemple, à Kinshasa, comme le gouverneur a donné le ton en disant qu'ils vont recenser, vérifier tous les endroits où on a construit au-dessus des caniveaux, au-dessus des collecteurs, je crois que c'est un départ. Il y a aussi un aspect qu'il faut comprendre. Il y a aussi
plusieurs
des catastrophes.
Plusieurs gouverneurs ont dit la même chose et après, bon. Il n'y a plus de suite. Et quand on constate que c'est une autorité qui a construit, là, on ferme les yeux.
Bon, ça, c'est du pipeau, comme pour les politiciens. Il faut le comprendre. Il faut le connaître à fond. Ça ne fait, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous connaissons comment les politiciens congolais évolue. Mais tout le monde ne doit pas entrer dans cette casquette. Il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent, qui commencent à lever le ton, à dire que ce n'est pas comme ça que la marche de l'État doit se faire et prendre des responsabilités. Si vous êtes ministre des Affaires foncières, ministre de l'Urbanisme, vous vous renseignez, vous voyez les lois, comment est-ce qu'elles le disent, et vous appliquez, c'est tout. Et c'est le ministre de la Justice, c'est ce qu'il doit faire. Il ne faut pas attendre compter les morts. Il faut donner la présomption d'innocence quand quelqu'un donne une bonne idée s'il n'est pas encore fautif. Si le gouverneur, il faut lui donner le quitus et dire peut-être il peut mieux faire. Mais ce n'est pas l'applaudir au départ. Mais il faut le voir à l'acte. S'il va le faire, bien sûr. Mais l'honorable a parlé ici. Vous savez les gens qui balayent les routes ici, nos routes de Kinshasa. Il n'y a pas longtemps que je l'ai vu, il est allé voir ces mamans-là. Une d'elles est décédée. Et ce sont des gens, si on met des gens, on ne s'occupe pas d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous mettez les lois, vous ne les appliquez pas, je crois que la population sera abandonnée à elle-même. Mais il faudra qu'il y ait des gens capables qui réfléchissent et le mettent à la place qu'il faut. Pas les gens qui vont pour peut-être...
Ils n'avaient
pas
une voiture. Donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut est sanctionné.
Et sanctionné et appliquer les règles et les réglementations qu'il faut dans les normes de l'habitation, de l'habitat et de l'humanisme et des affaires foncières. Et là au moins, si on commence quelque part, on va y réussir. Alors, et ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est avoir un plan directeur de toute la République par rapport à la démographie, par rapport aux revenus par habitant, par rapport aussi à la zonification.
Alors, il y a Blanchard Luana, c'est pour vous, Apollinaire Salomon, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui dit ceci, quand bien même que ces dégâts matériels, la perte des vies humaines sont causés par les catastrophes naturelles d'origine pluvieuse, la faute incombe au gouvernement congolais qui permet à qui que ce soit d'acheter, de construire anarchiquement sur des terrains accidentés où la population n'a pas assez de moyens de pouvoir canaliser les eaux des pluies. Les services d'urbanisme n'existent presque plus et si ils existent, ils sont corrompus et laissent le champ libre de construire comme bon leur semble. Il appuie un peu l'honorable le député Eliezer Tambwe.
Bien sûr.
Lui, c'est le gouvernement.
Bien sûr, je crois que notre compatriote n'a pas suivi peut-être le début de l'émission aussi. Je ne dis pas seulement la population. Je dis, c'est une catastrophe naturelle, mais il y a aussi la responsabilité de l'État. Si l'État pouvait urbaniser et arriver à mettre des structures que quelqu'un ne peut pas venir construire là où est interdit, il ne peut pas le faire. Je vous donne l'exemple, madame. Vous voyez le stade de Martyrs. Si quelqu'un vient mettre un kiosque, vous vous rappelez, on avait détruit des kiosques qui étaient là-dedans. C'était devenu la foire. Donc, quand la population, les autorités qui sont censées donner les ordres, respecter l'espace, les font, c'est eux, c'est leurs dames, c'est leurs cousines qui occupent ces espaces. Je me rappelle sur une chaîne ici à Kinshasa, nous parlions des conteneurs qui envahissaient la ville. Mais il a fallu qu'un gouverneur qui était le général, le colonel, qui a pris à bras le corps le problème, et on n'avait plus vu des conteneurs comme des boîtes de bars sur le long des avenues. Vous voyez, c'est un peu ça que si l'État est responsable, n'a qu'à faire respecter la loi et la population va suivre si elle trouve son compte.
Alors, on va prendre quelques réactions des auditeurs. Paul Senga Garbo, qui est depuis Kisangani, tout en souhaitant, mais en présentant nécessaires condoléances aux familles touchées par ces drames. À mon avis, je pense que la responsabilité est partagée entre la population et l'État. D'un côté, l'État octroie des parcelles à des individus sans tenir compte de la géologie en exposant la population à des risques de ce genre. De l'autre côté, la population doit toujours consulter les techniciens du domaine avant d'occuper un terrain qui produit souvent de telles conséquences et éviter la construction anarchique. Ainsi, face à ce fléau, l'État devrait prendre des mesures pour prévenir cela par le contrôle des conditions météorologiques afin d'avoir l'habitude d'alerter la population riveraine. Mais pour l'instant, l'aide humanitaire s'impose pour les sinistrés, d'autant plus qu'il y a un budget propre pour les catastrophes naturelles et autres épidémies. Alors, je rappelle qu'on devrait avoir le ministre Tengelito, ministre provincial de l'environnement de la ville-province de Kinshasa. Malheureusement, il ne répond toujours pas à son téléphone. Pourtant, il avait promis de participer à cette émission. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Eliezer Tambwe, un mot pour conclure.
Madame, je dis tout simplement que nous devons être ensemble et regarder en face notre État. Parce que ce qui s'est fait, c'est de la responsabilité de l'État. Vous n'avez qu'à voir. Parce qu'il y a des endroits qui nous ont trompés, même qui construisaient les logements sociaux, comme à Motel Fikin, comme Oasis, qui s'est transformé en logement des millionnaires. Donc ce qui est bien dommage. Il a fallu au gouvernement d'anticiper l'événement.
Merci. Paul, plutôt Apollinaire Salomon.
Merci madame, vous êtes la seule radio qui invite les gens pour de telles émissions. Il faudrait que la population aussi se prenne en charge et l'État aussi prenne ses responsabilités.
Merci beaucoup Apollinaire, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.